Brezhorov Finistère, qui est comme Radio Évasion une association d'éducation populaire. Elle nous informe, elle, sur ce que fait donc l'Union européenne, sur ses actualités. Aujourd'hui, au surlendemain du second tour de l'élection présidentielle française, on s'est dit qu'il pouvait être pertinent de vous proposer un état des lieux actualisé des forces politiques qui gouvernent les différents États membres de l'Union européenne, avec Jocelyn Chesnel, cofondateur de Brezhorov Finistère. D'abord, Jocelyn, avant-hier, donc Emmanuel Macron a été réélu président de la République. Quelles sont les conséquences pour les autres pays européens? Est-ce qu'il y en a d'ailleurs?
Oui, il y en a. Les Européens regardaient même avec une certaine appréhension cette journée de vote en France, craignant les répercussions nombreuses d'une victoire de l'extrême droite pour le fonctionnement même de l'Union. La peur qui était partagée dans les institutions, mais aussi au sein de la très grande majorité des pays voisins, c'était celle d'un arrêt forcé de l'Union, d'un arrêt forcé de son fonctionnement, craignant effectivement que celle-ci survive très difficilement en fait à une France qui s'isole et donc à une France qui laisse l'Allemagne seul moteur politique, alors même que celle-ci n'est actuellement, en tout cas clairement pas exempte de reproches, s'il s'agissait de mentionner rapidement la crise ukrainienne qu'on a par ailleurs évoqué dans notre dernière chronique. Le refus de Berlin de mettre un terme aux importations de pétrole et de gaz russe. Bref, la Commission elle avait même reporté à l'après-second tour français plusieurs discussions importantes qui devaient avoir lieu, notamment s'agissant des sanctions européennes contre la Russie, pour ne pas que la nouvelle présidente éventuellement élue, Marine Le Pen, n'en casse le principe, pourtant préalablement adopté par tous en Europe. Mais c'est bon, ces craintes, elles appartiennent dorénavant au passé, et les Européens se sont même empressés de féliciter le président français réélu, quand il ne l'avait pas carrément soutenu entre les deux tours, d'Ursula von der Leyen pour la Commission européenne, à Charles Michel pour le Conseil européen, en passant par Roberta Metsola pour le Parlement européen, et même Pedro Sanchez pour l'Espagne, Antonio Costa pour le Portugal, ou encore Olaf Scholz pour l'Allemagne. Ces trois derniers étant à la tête de gouvernements de coalition de gauche, social-démocrate, écologiste et libéral, et ayant signé une tribune tout récemment dans le journal Le Monde pour appeler les Français à élire Emmanuel Macron, soucieux de l'avenir de l'Union européenne. Donc, pour vous répondre, l'élection, elle a effectivement des conséquences, puisqu'elle permettra vraisemblablement, en tout cas la continuité, de l'action résolue des Européens quant à bien des aspects, de la guerre dramatique en Ukraine aux avancées attendues sur les sujets environnementaux, en passant par la politique communautaire à mener à l'endroit des géants du numérique, à titre d'exemple. Mais on pourrait préciser que l'élection française n'est pas la seule à avoir eu lieu avant-hier, et portant potentiellement des conséquences pour d'autres États membres de l'Union.
Oui, Jocelyn, il y a aussi eu un processus électoral en Slovénie, c'est bien ça ?
Exactement. Tous les 4 ans se tiennent en Slovénie, effectivement, des élections générales, comme dans toute démocratie, sur le modèle parlementaire, qui doivent décider de la majorité à l'Assemblée nationale, pour pouvoir ensuite décider du gouvernement et du contrat de coalition qui seront amenés à diriger le pays. Élément de contexte quand même, pour bien comprendre, c'est que depuis 2020, c'était Janez Janša, figure politique célébrissime en Slovénie, qui occupait la place de Premier ministre à la tête d'un gouvernement des droites, c'est-à-dire d'un gouvernement regroupant les mouvances de droite libérale classique aux mouvements beaucoup plus réactionnaires et radicaux. Janša, il est souvent présenté comme le poulain d'Orban, le Premier ministre hongrois dans le pays, responsable de multiples attaques contre la presse libre et la justice indépendante, et puis farouche soutien de Donald Trump, ce qui n'est pas anecdotique. Puisque pour son utilisation excessive de Twitter, les Slovènes ont même peu à peu opté pour le surnom de Maréchal Twito, pour le désigner, le comparant en fait à feu le Maréchal Tito, qui a longtemps gouverné la Yougoslavie dont la Slovénie était membre. Il était aussi, Janša, au-delà de ses attaques contre l'état de droit, extrêmement critiqué pour les affaires de corruption qui l'ont touché et ont touché ses proches de nombreuses fois, mais aussi pour son impulsivité, à l'instar de Donald Trump, qui l'a par exemple conduit à considérer que Joe Biden avait perdu l'élection présidentielle américaine de 2020, c'était le seul en Europe à tenir ce discours, ou qui l'a même conduit à écrire des tweets aux accents antisémites dont l'objectif était d'attaquer les eurodéputés d'autres nations. En fait, c'est la méthode de gouvernement de Janša qui est extrêmement préoccupante, qui était préoccupante, et donc mécaniquement générait beaucoup de colère, puisque Depuis 2 ans, il faut avoir conscience d'un fait, c'est combien les Slovènes se sont mobilisés dans la rue contre lui, ce qui est un événement politique, en tout cas de cette ampleur, assez rare dans le pays. Donc la gouvernance de Janša, qui n'était pas la première, mais la troisième en tout, depuis l'indépendance du pays, constituait effectivement pour beaucoup d'observateurs une forme d'anomalie, les Slovènes étant tout de même très européens, occidentaux dans l'âme et libéraux philosophiquement. Eh bien, figurez-vous que Janša, il a perdu l'élection. Il l'a perdu. Il a perdu l'élection de dimanche dernier, et assez largement en fait, puisqu'en effet, à 34% pour le Parti de la Liberté de Robert Golob, qui représente le centre-gauche écologiste, contre 23% au parti et à l'équipe de Janša, eh bien c'est sans appel. Une coalition va donc devoir s'opérer pour les 4 années qui s'ouvrent, 46 sièges étant nécessaires pour contrôler l'Assemblée, et le parti d'à peine 3 mois d'existence en ayant une trentaine ou une quarantaine d'assurés. Il faudra donc chercher les conditions pour une alliance, vraisemblablement avec les sociodémocrates, qui ont fait dimanche entre 6 et 7% en Slovénie. Donc, s'il y a une chose qui est très claire, c'est qu'Orban, il a perdu un allié de poids en Europe. Il avait déjà perdu le Premier ministre tchèque Andrej Babis, du fait d'une affaire de corruption, et même le chancelier autrichien Kurz récemment. Puis tout récemment d'ailleurs, il y a justement aussi eu une élection générale en Hongrie. En Hongrie où, malgré l'union, derrière un seul et même candidat de l'opposition pour pouvoir peser face au Premier ministre Orban, ouvertement eurosceptique, ouvertement pro-russe, ce qui en fait en fait le seul aujourd'hui dans l'Europe des 27 dans cette situation, eh bien ce dernier, Orban, a tout de même remporté la mise, ironisant même dès sa soirée de victoire sur les Ukrainiens et sur les institutions de Bruxelles, qu'il entendait bien continuer de mettre en cause. Donc c'est sans dire combien cela écarte aussi Orban de son allié polonais, qui, s'il porte un discours conservateur et eurocritique similaire au sien, ne supporte pas la Pologne, cette attitude des Hongrois, qu'il considère être une attitude de complaisance vis-à-vis des Russes, et le lui font savoir d'ailleurs, puisque c'est d'autant plus éclat que la Pologne accueille actuellement littéralement des millions de réfugiés ukrainiens et craint pour sa survie même et pour sa souveraineté avec un voisin russe aussi agressif.
Eh bien, on a le sentiment qu'à l'exception d'Orban en Hongrie, les leaders autoritaires européens perdent peu à peu partout en Europe, non ? Est-ce qu'on peut dire que c'est une victoire de l'idée européenne ?
Oui, et c'est effectivement plutôt une victoire certaine de la construction européenne et de sa poursuite. D'autant qu'avec la pandémie et la guerre menée par la Russie en Ukraine, beaucoup s'accordent pour affirmer combien on n'a jamais autant eu besoin d'agir ensemble. Mais la question, c'est pour combien de temps, en fait ? Avec 27 gouvernements et avec l'exemple français d'avant-hier, on s'inquiète de façon permanente de ce qui pourrait advenir, ici ou là, dans les nations européennes, politiquement.
Mais alors, Jocelyn Chesnel, si ces leaders de la droite radicale perdent peu à peu, est-ce que vous pouvez nous dire quel pays a quelle majorité en Europe ? Quels sont les rapports de force politique, en fait ?
Bien, en fait, on pourrait tenter de simplifier le paysage politique en composant 4 gros blocs, c'est ce que je vous propose. Le premier, c'est un bloc libéral de centre-droit, en faveur de l'économie de marché et farouchement pro-européen. Le deuxième, c'est un bloc de droite traditionnel, libéral, conservateur. Le troisième, c'est un bloc très conservateur, autoritaire même. Et le quatrième, c'est un bloc de gauche et de centre-gauche. Donc le bloc libéral de centre-droit, s'y trouve la France, bien sûr, avec Emmanuel Macron, le Luxembourg avec Xavier Bettel, et dans une moindre mesure, la Slovaquie de Heger, qui est à la tête d'un gouvernement de coalition entre partis libéraux et partis issus de la droite traditionnelle. Et c'est sans faire mention rapide, mais mention tout de même du fait combien, depuis les dernières élections européennes, celles de mai 2019, le groupe libéral au Parlement européen s'est lui aussi agrandi considérablement même, du fait direct du pourcentage obtenu alors par la liste justement de la majorité présidentielle française. Le bloc de droite traditionnel, lui, qui mine de rien se réduit peu à peu et se compose de la Grèce, de Kyriakos Mitsotakis, qui a gagné, pour rappel, face à la gauche incarnée par l'emblématique ancien Premier ministre Alexis Tsipras en 2019, ou encore la Roumanie du Premier ministre Nicolae Ciuca, la Croatie du Premier ministre Andrei Plenković, même si pour la Croatie, la Croatie est curieuse puisque c'est un pays qui a un système bipartisan qui est encore très en vigueur et qui donc passe d'une majorité politique à l'autre, à l'instar de la France il n'y a pas si longtemps encore. Mais on peut ajouter hein, la Tchéquie du Premier ministre Fiala, l'Autriche du chancelier Nehammer, ou encore Chypre avec son président Anastasiadis. Et puis, je le disais, un bloc très conservateur, autoritaire souvent, où se situe bien sûr la Hongrie du Premier ministre Viktor Orban, mais aussi la Pologne du président et du Premier ministre Duda et Morawiecki. Et puis enfin, un bloc de gauche et de centre-gauche, qu'on peut lui-même subdiviser en deux blocs, c'est-à-dire, entre, pour faire simple, hein, entre les pays du Nord et ceux du Sud. Donc d'une part, les Allemands et les Scandinaves, que sont les Suédois, les Finlandais et les Danois, qui incarnent plutôt une gauche centriste et libérale, et au Sud, les Portugais avec Antonio Costa, les Espagnols avec Pedro Sanchez, ou encore les Maltais avec Robert Abela. Et puis, on peut prendre la peine hein, d'ajouter la Bulgarie actuelle, qui a récemment été assez instable, mais gouvernée par la coalition de centre-gauche du Premier ministre Petkov.
Mais il y a des pays essentiels que vous n'avez ni cités ni classés, Jocelyn. Par exemple l'Italie ou encore la Slovénie qu'on évoquait justement. Où est-ce qu'on peut les situer politiquement pour y voir clair ?
Effectivement, c'est très bien noté. En fait, il y a bien deux pays qui ont des situations très particulières du fait de leurs instabilités chroniques, la Belgique et l'Italie. La première, elle est dirigée par le Premier ministre Alexander De Croo, à la tête d'une coalition qu'il a été très difficile de mettre sur pied, hein, puisqu'il a tout de même fallu 16 mois et un gouvernement de gestion des affaires courantes dans ce temps-là pour la constituer, cette coalition, après la dernière élection législative belge. Et dont le contrat de coalition, d'ailleurs, hein, s'intitule Vivaldi, parce qu'il réunit 7 partis. 7 partis composés de libéraux, de socialistes, d'écologistes, de chrétiens-démocrates, et de la droite traditionnelle, plus globalement. Donc ça, c'est pour la Belgique. Et puis, bien sûr, l'Italie, qui a une situation similaire, puisqu'elle a à sa tête le président du Conseil des ministres, Mario Draghi, hein, très populaire, ancien patron de la Banque Centrale Européenne, avec son gouvernement de coalition qui rassemble de la gauche radicale à la droite extrême. Donc il faut bien dire qu'en dépit de soubresauts qui ont été importants, eh bien ce modèle il tient depuis 3 ans environ maintenant, avec parfois des saillies nationalistes, hein, comme ce fut le cas du temps du ministre de l'Intérieur d'extrême droite, Matteo Salvini, quand Conte était à la tête du Conseil des ministres. Un autre pays qui est difficilement positionnable politiquement, c'est la République d'Irlande du Premier ministre Martin, puisque son gouvernement réunit des Verts, des libéraux, le Fianna Fáil, qui est républicain libéral de centre-droit, et le Fine Gael, qui est libéral démocrate chrétien classique. Donc si ça ne tenait qu'à moi, je le positionnerais chez les libéraux, mais c'est vrai que c'est difficile. Et puis enfin, effectivement, le cas de la Slovénie qu'on évoquait, et qui est assez nouveau, car on a encore du mal à classer politiquement ce mouvement qui a 3 mois d'existence seulement. C'est un mouvement qui se dit et de droite et de gauche, européen et écologiste. Donc on pourrait vraisemblablement, en tout cas, le classer parmi les libéraux, ou en tout cas au centre-gauche, voire chez les Verts. Hein, donc je suggère qu'on attende l'observation d'une première pratique du pouvoir, avant de pouvoir justement juger.
Eh bien, merci Jocelyn. Et alors, qu'est-ce qu'on peut attendre maintenant que l'élection présidentielle française et d'autres élections importantes sont passées ? Quels enseignements on peut en tirer ?
Bonne question. Quoi constater ? Que les mouvements illibéraux, c'est-à-dire les mouvements très anti-valeurs européennes des droits fondamentaux et du respect de l'état de droit, à l'exception, hein, certes, très notable de la Hongrie, on l'aura compris, eh bien, ces mouvements illibéraux, ils reculent partout en Europe. Attention néanmoins, ils reculent s'agissant de l'accession au pouvoir de leurs représentants. Ils ne reculent pas tant en nombre de voix comme la situation française l'a démontré dimanche. Mais quoi constater ? Eh bien aussi qu'en l'espace de quelques années seulement, le visage politique des États membres de l'UE et des institutions de l'UE elles-mêmes via le rapport de force instauré par son Parlement, eh bien il a considérablement changé. Il y a encore peu de temps par exemple, hein, souvenons-nous que les socialistes et la droite traditionnelle étaient très forts en France. La gauche radicale dirigeait la Grèce. Et puis l'Allemagne était un bastion conservateur, à titre d'exemple. Donc quoi attendre ? Eh bien, il a été indiqué tout récemment que le président Macron réélu souhaitait renforcer encore la coopération franco-allemande au nom des Européens. Le chancelier Scholz et le président Macron donc vont très certainement se rencontrer sous peu, hein, comme le veut la tradition, après l'élection d'un président en France. Donc ce qu'on peut espérer, c'est que les Français, par exemple, fassent enfin entendre aux Allemands certaines choses, et notamment actuellement l'extrême nécessité d'un embargo sur les importations de gaz et de pétrole russe, par exemple. Je crois même que ce serait particulièrement bienvenu.
Eh bien, on verra. Merci Jocelyn Chesnel. Vous savez qu'à mardi par mois dans l'EM, on retrouve l'association Braise Europe Finistère. Le prochain rendez-vous, ce sera donc le 31 mai.